Bonjour François.
Bonjour Paul.
François, comme à l'habitude, on répond aux questions que les auditeurs t'ont envoyées pendant la semaine. On commence avec Liette.
Oui, Liette, qui est âgée de 67 ans, puis pour la première fois, elle veut prendre de l'argent dans son portefeuille, dans ses placements, et elle s'est aperçue dans les documents qui ont été expédiés par sa banque qu'il y avait du gain de capital là-dedans. Donc, autrement dit, pour être capable de sortir son argent de là, elle déclenche un gain de capital sur des actions probablement, ou encore des fonds communs de placement qui ont connu une bonne progression. Alors, elle dit, comment je déclare ça à Revenu Québec et à Revenu Canada? C'est bien simple, il y a deux annexes à remplir. Au fédéral, c'est l'annexe 3, au Québec, c'est l'annexe G. Pourquoi on doit remplir ça? Ben, faut que tu calcules combien de gains de capital tu as eu durant l'année. Tu vas déduire de ça, bien sûr, s'il y a eu des pertes, alors ça sera extrêmement intéressant et surtout important de demander à la banque s'il n'y a pas eu des pertes qui ont été encourues au cours de l'année, et ce sera déductible. Alors, le taux d'inclusion, c'est 50 %. Ça veut dire quoi exactement le taux d'inclusion? Par exemple, si vous avez 1 000 $ de gains de capital, il y en aura 500 $ qui seront donc exemptés et seulement 500 $ qui seront bien sûr imposés au taux normal d'imposition selon votre vos taux à vous. Et au cours de l'année, bien sûr, on peut déduire les pertes qui ont été encourues. Si vous avez déjà des pertes antérieures, bien, vous pourrez les déduire également un petit peu plus loin dans la déclaration de revenus. C'est aussi simple que ça.
OK. Yvon?
Oui, Yvon Desrochers, qui dit « Mon fils est divorcé depuis au moins 2 ans. 2 enfants avec garde partagée. On veut savoir comment récupérer les allocations familiales, fédérales et également l'aide aux familles au Québec. Et de plus, qui prend les enfants à charge pour l'impôt? » Il y a deux questions là-dedans extrêmement importantes. D'abord, on est très en retard parce que vous devez déclarer votre nouvelle situation familiale 90 jours après les faits. Donc, si par exemple vous divorcez le 1er juin, va falloir avertir Revenu Canada, Revenu Québec, Retraite Québec, parce que c'est eux qui payent, entre autres, ce qu'on appelle souvent l'allocation familiale, mais c'est plutôt le soutien aux familles ici au Québec. 90 jours après les fêtes, donc c'est le 1er septembre. Faut le faire. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si vous avez une garde partagée, vous pourrez pas réclamer 2 ans en arrière, là. Ici au Québec, c'est 11 mois seulement. Et d'autant plus que la personne qui a reçu toutes les allocations, ben risque de devoir en rembourser une partie aussi. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait pas le droit. C'était 50-50, ça devait être partagé.
Ouais.
Et bien entendu, il faut pas qu'il y ait de conjoint de l'autre côté, là, parce que là, on va tenir compte du revenu familial de l'autre couple. Bon, pour ce qui est de la déduction, on appelle ça l'équivalent de conjoint. Là. C'est une déduction, c'est comme si vous aviez un conjoint qui ne travaille pas. Il y a 2 enfants. S'il n'y a pas de... dans la déclaration de revenu au Québec, ça change rien, mais au fédéral, il y a une déduction. Chacun des conjoints peut prendre 1 enfant à sa charge, mais s'il y a pension alimentaire, c'est le tout ou rien là-dedans. S'il y a pension alimentaire versée par un des 2 conjoints, celui qui verse la pension alimentaire n'aura pas le droit à cette déduction-là. C'est plate, mais c'est comme ça, c'est la règle. Et il faut faire attention aussi aux frais de garde, là, parce que c'est le conjoint, normalement, qui réclame les frais de garde qui a le plus petit revenu lorsqu'il y a un couple. Lorsqu'il y a séparation, vous devez absolument avoir encouru ces frais-là si l'enfant est en votre garde. Si vous êtes en garde partagée, par exemple, et que vous payez les frais entièrement, ça devrait être séparé 50-50. Alors, faut faire très attention à ça.
François, la période du temps des fêtes vient avec, évidemment, beaucoup d'achats. On achète des cadeaux, on se gâte aussi nous-mêmes. Quelques conseils pour éviter de se refourrer?
Oui, effectivement. Parce que les gens oublient souvent les règles. Même si il y a... Habituellement, dans tous les magasins, vous aurez la fameuse loi qui oblige la politique d'exactitude des prix. Là. C'est affiché normalement pas loin des caisses. Ça, c'est l'Office de la protection du consommateur qui règle ça. Mais il y a également l'étiquetage. C'est extrêmement important. Mais il y a des biens qui ne sont pas nécessairement étiquetés. C'est le cas des objets qui sont de moins de 60 cents. Je sais pas pourquoi. Qu'on a mis ça à 60 cents, on aurait peut-être pu mettre ça une pièce et moins. Là. Les aliments qui sont pas emballés, etc., etc. Je vous invite à aller lire sur l'OPC quelles sont les 13 catégories de biens qui sont exemptés. Il y a bien sûr des exceptions là, d'étiquetage individuel dont je vous ferai grâce, mais c'est la politique d'exactitude des prix. Cette semaine, j'ai assisté à une scène où le caissier, parce que c'était un gars, il n'était pas au courant Même si c'était en grosses lettres à côté de lui, là, il était pas au courant. Alors, quand, si le prix à la caisse est plus élevé que le prix qui est annoncé, par exemple, dans l'allée, alors, voici comment ça fonctionne. Si ça coûte 10$ et moins, on est obligé de vous remettre gratuitement l'article. C'est bien important.
Okay.
Et s'il coûte plus que 10$, ben là, vous aurez, on doit corriger le prix et vous consentir un rabais de 10$ sur le prix corrigé de l'article. Par exemple, ça coûte 10,95, puis à la caisse, ça marque 11,95. Alors, on devra corriger le prix à 10,95, lui donner 10$ de rabais, donc l'article va lui coûter 95 cents. Mais attention, j'ai vu dans des dépanneurs, par exemple, où l'exactitude des prix, des fois, on fait des erreurs beaucoup. C'est pas comme dans les grands magasins. Dans les grands magasins, habituellement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui vont se faire.
Ouais.
Et habituellement, on va pas trop obstiner pour rembourser le prix de 10$ et moins, là, ou encore de 10$ de plus. Mais si ça arrive plus qu'une fois, par exemple, tu as 2-3 articles, tu vas dans le dépanneur, là, puis tu as 2-3 articles qui sont mal étiquetés, ben t'as pas 3 fois le rabais. Là. C'est une seule fois. Alors, la police, ça s'applique seulement une fois, c'est constaté. Faut que la transaction soit complétée. Et la condition, bien sûr, c'est que vous achetiez quand même l'article. Si, et en plus, ça doit être fait au moment des faits. C'est-à-dire que vous le constatez sur... Vérifiez donc ce qui se passe quand le caissier ou la caissière est en train de passer vos articles un par un. Là. Vérifiez à chaque fois. Parce que ça arrive avec les lecteurs électroniques maintenant. Là. Des fois, ça fait bip-bip. Puis là, la personne s'aperçoit que sur sa caisse, c'est pas passé, mais des fois, il y a un petit retard entre l'exécution et ce que la caisse va enregistrer. Il la repasse une deuxième fois. Ça va être à vérifier. Alors, la politique s'applique, bien sûr, à la majorité des articles, sauf celles qui sont prescrites par la loi, parce qu'un rabais qui peut pas être accordé, c'est le cas de l'alcool, c'est le cas des médicaments, des tabacs. Tu sais, t'achètes un paquet de cigarettes, il est mal étiqueté. Non, t'auras pas le rabais de 10$.
Ça, c'est clair.
Le lait, la bière, le vin, les articles en vrac également. Alors, tout ce qui est fixé par la loi à un prix minimal, il y aura pas de rabais là-dessus. Alors, c'est extrêmement important. Puis le conseil que je pourrais peut-être vous donner en dernier, c'est... pour tous les détails, je vous invite à les lire sur l'Office de protection du consommateur, mais prenez le temps de vérifier votre facture aussi. Quand je vous disais des erreurs à la caisse, ça peut arriver, là, afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur de glissé, qu'il n'y a pas un article qui a été pris deux fois, ça arrive souvent, ça. Et les gens ramassent le bill, si tu me permets l'expression, s'en vont, puis là, ils arrivent à la maison. Ah, Seigneur, il est trop tard, là. Tu sais, va essayer de prouver que tu n'as pas pris ces articles-là deux fois.
Ben non, c'est impossible.
Faut que ça soit fait sur le coup. Si t'achètes une canne de bine, puis si t'en as 3 d'inscrits sur le coupon, ben là, si tu t'en aperçois tout de suite, et on va te l'enlever, il n'y a pas de problème, habituellement. Mais si t'arrives à maison puis tu dis « Oh Seigneur, j'ai eu 3 cannes de bine. » Non, alors retourne pas au magasin, là, tu vas t'astiner jusqu'à demain matin.
Dans mon garde-manger, il n'y a pas les 2 cannes de bine manquantes, promis.
Ah ben là, prouve-le, mon petit homme. Regarde, c'est parce qu'à moins de revenir tout de suite avec ton sac, là, il est trop tard. Alors donc, c'est extrêmement important. Et et parfois, là, si vous avez des appareils photo, là, la majorité du monde a des téléphones intelligents, si vous avez un soupçon, des fois une petite photographie sur l'étiquette avant là que ça passe à la caisse pour être certain là qu'il y a pas d'erreur. Alors vous allez avoir une preuve irréfutable que le prix qui était étiqueté dans l'allée est le même ou ce n'est pas le même là, qu'à la caisse. Donc il y aura pas d'obstination avec le caissier ou la caissière parce que des fois ça arrive.
Ouais.
Les gens sont pas au courant, là, puis ça arrive.
Vos questions concernant les finances, vous les posez à François Gagnon en écrivant françois.gagnon@commercial985fm.ca. Merci François.
Ça me fait plaisir.
OK, au revoir.
À la semaine prochaine.